moi dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 22. Ézéchiel chapitre 22, à partir du verset 23. Nous avons prévu aujourd'hui un temps de jeûne et prière et il y a 15 jours, j'étais en train de méditer la parole de Dieu et j'étais dans le livre d'Ézéchiel et ce texte est venu sur mon cœur. Je l'avais bien sûr lu bien des fois, mais vous savez, une fois n'est pas comme une autre. On lit la parole de Dieu et parfois elle retentit de manière différente dans notre cœur. Et le Seigneur m'a conduit à préparer ce message et le titre du message c'est « Faute d'homme, le pays se meurt ». Faute d'homme, le pays se meurt. Nous allons lire ensemble ce récit du livre du prophète Ézéchiel au chapitre 22 à partir du verset 23 à 31 qui dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée. Tu n'es pas arrosée de la pluie au jour de la colère. Ces prophètes conspirent dans son sein. Comme des lions rugissants qui déchirent leur proie, ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses, ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mon sanctuaire. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans un sein comme des loups qui déchirent leur proie, ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, des vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent ainsi, parle le Seigneur, l'Éternel et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence. Comme des rapines, opprime les malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais j'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère et je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Certes, quand nous lisons le livre d'Ézéchiel, nous voyons une teneur bien différente, prophétique, de celle qu'on a peut-être l'habitude d'entendre aujourd'hui. Dans cette prophétie, en réalité, Ézéchiel exprime de la part de Dieu une pensée qui touche particulièrement le peuple de Dieu en indiquant exactement les situations dans lesquelles ce peuple s'est mis. En faisant cette lecture, nous sommes frappés, ou j'ai été frappé en tous les cas, de constater la grande quantité d'avertissements que Dieu communique à son peuple. Puisque Dieu a la volonté de sauver. Croyez-vous cela ? Amen ? Quelle meilleure manière pour sauver son peuple, pour sauver ses enfants que de les avertir? Combien de fois les parents peuvent avertir leurs enfants? Ça arrive? Oui? Qui a été enfant? Avez-vous été averti un jour ou un autre? Oui? Avez-vous toujours écouté l'avertissement? Quelle a été la conséquence? Et Dieu comme un père nous avertit, nous dit attention parce que continuer comme ça, tôt ou tard, il y aura des conséquences. La réaction ou le manque de réaction de ces derniers, de ce peuple, sont véritablement choquants. Ézéchiel chapitre 12 versets 1 et 2 nous dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. » Donc ça veut dire que quand nous n'écoutons pas l'avertissement de Dieu, quand nous refusons de voir ce que Dieu met devant nous comme une évidence, nous faisons nous aussi partie de cette famille de rebelles. Waouh! Il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. C'est tout ou rien. Est-ce que je peux faire la sélection de dire ça, je veux l'entendre, Seigneur. Ça, je ne veux pas l'entendre. Ça, je veux le voir. Ça, je ne veux pas le voir. Seigneur, je veux voir tes bénédictions. Alléluia. Ok. Mais il faut aussi accepter de voir ce que Dieu fait à ceux qui n'obéissent pas. Parce qu'autrement, qu'est-ce qu'il va garder notre cœur sur le droit chemin? Si vous prenez un enfant et vous l'avertissez une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et vous le sanctionnez jamais, quand est-ce qu'il apprendra? Il vous dira, compte toujours, ça m'intéresse. N'est-ce pas? Par contre, quand vous comptez une fois, deux fois, à deux déjà, l'enfant qui est habitué, il sait que ça chauffe. C'est mieux pas arriver à trois. Est-ce qu'on est prêt à écouter quand Dieu nous dit « Attention, premier avertissement ». Déjà au premier, on devrait être suffisamment sage. On est tous sages, non? Oui? Alors, définissez pas vous-même si vous êtes sage. Demandez à la personne qui partage sa vie avec vous de vous dire si vous êtes sage ou pas. Parce que c'est facile de se dire « Moi, je suis sage ». C'est les autres qui savent la réalité. On continue. La parole de Dieu nous dit aussi que le prophète était malmené et subissait la dérision des autorités politiques et religieuses, des propos que nous pouvons définir outrageux vis-à-vis de Dieu même. Ézéchiel chapitre 12, versets 21-23 nous dit ceci, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, que signifient ces discours mon cœur ?» Que vous tenez dans le pays d'Israël, les jours se prolongent et toutes les visions restent sans effet. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ferai cesser ces discours moqueurs. On ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur au contraire, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. Amen. Si nous disons Amen, c'est que nous savons que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu va s'accomplir. Aussi la fin du monde. On est d'accord, mais sommes-nous prêts? Sommes-nous en réalité suffisamment préparés pour dire, Seigneur, si tu venais maintenant, je pars avec toi dans le ciel. La parole de Dieu nous dit qu'au retour de Christ, un sera pris, l'autre sera laissé, non pas parce que Dieu choisit un sur deux, parce qu'il ne peut pas en sauver deux, non. C'est parce que deux personnes, l'une après l'autre, les deux, ils ont entendu le message, mais il y en a un seul qui a véritablement dit « Oui Seigneur, je veux te suivre ». La volonté de Dieu, c'est de sauver tous les hommes. Mais est-ce que les hommes veulent tous être sauvés? Même à la croix, il y avait deux brigands, n'est-ce pas? Deux brigands. Est-ce que les deux ont entendu le même message? Jésus, il a entre guillemets, prêcher pour les deux à la croix. Est-ce que les deux, ils ont partagé la même souffrance? Oui. Je dirais même la même sanction. Mais il n'y en a qu'un des deux qui a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans le ciel. Et quelle a été la réponse de Jésus? Waouh, quelle assurance immédiate! Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le ciel. Alors, il y avait une double nouvelle pour le monsieur. La première, c'est qu'il allait mourir. Tu ne vas pas t'échapper. Mais la deuxième, c'est que tu vas partager l'éternité avec moi. Et ça, je veux vous dire, il couvre largement la première. Être ceux qui ont entendu la voix de Dieu. Mais malheureusement, vous savez, les hommes entendent et parfois lisent la parole de Dieu et ne tiennent pas compte. Excusez-moi de vous dire ça, parfois même les enfants de Dieu disent oui, c'est bien, mais c'est bien loin ça. Et si Jésus venait ce matin, ça peut se produire? Qu'est-ce qui lui empêche de venir ce matin? N'est-ce pas? Est-ce qu'on est certain dans notre cœur d'être dans l'état de partir et de dire « Seigneur, aujourd'hui même je serai avec toi dans le ciel. Oui, mais pasteur, je n'ai pas eu le temps de me baptiser. Ce n'est pas une question seulement de baptême. Le baptême, c'est une question d'obéissance. Et si on avait pu se baptiser, on ne l'a pas fait, on a été un peu du peuple têtu. OK ? À réfléchir. On y reviendra. Mais est-ce que aujourd'hui, est-ce que j'entends la voix de Dieu me parler et me dire « Repends-toi, donne-moi ton cœur, parce que l'homme à la croix, le brigand, il n'est pas passé par une formation baptême. » Oui ou non ? Est-ce qu'il a eu des rendez-vous avec le pasteur pour discuter sur le pourquoi du comment ? Non. Ça a été du direct. Et si vous saviez combien de fois il m'est arrivé de me retrouver à côté de quelqu'un en fin de vie, et à ce moment, la personne, elle a donné son cœur au Seigneur et quelques heures plus tard, il est parti. Et moi, je crois, comme la parole de Dieu le dit, si quelqu'un confesse le nom de Jésus, il est sauvé. Amen. Quelle grâce, quelle espérance. Ça ne nous désengage pas quand même de l'obéissance. Puisque Dieu nous accorde et fait de tout pour nous accorder le temps pour aussi obéir en tout et pour tout. Je voudrais dire aussi ce matin que Dieu n'est jamais en retard, mais il fait toujours tout ce qu'il dit. Toujours. Amen. Ézéchiel, chapitre 12, versets 27 et 28, nous lisons « Fils de l'homme, voici la maison d'Israël, dit les visions qui là ne sont pas prêts de s'accomplir. Ils prophétisent pour des temps éloignés. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. » Amen. Ça prouve bien que Dieu fait preuve de patience, mais dans le but de sauver. Mais vous savez, la patience de Dieu a aussi un terme, a aussi un moment où il dit stop. On le voit avec Noé. Dieu avait donné à Noé de prêcher aux hommes le salut en Dieu. Vous imaginez juste un instant ce que Noé a vécu. Il y avait combien d'hommes qui suivaient Dieu sur la terre ? Un. Ses enfants, sa famille ont été sauvés grâce à la foi de Noé. Amen. Donc, il aurait pu se plaindre auprès de Dieu et dire, « Mais je suis seul, Seigneur, comment tu veux que je fasse ? Tu as vu l'ampleur des travaux, en plus, tu m'as donné à faire un bateau là où il n'y a pas d'eau. Tu m'aurais donné de construire un petit truc, ça aurait été plus facile. Non, tu veux en plus que je prépare et je prévois aussi pour sauver des animaux. Seigneur, j'ai peur des animaux. » Non ? Est-ce qu'il y a des animaux qui vous font peur ? Quoi ? Les serpents ? Les araignées ? Les lions, non, hein ? Vous avez l'habitude. Mais vous imaginez, ils ont dû vivre avec tous ces animaux dans l'arche, mais Dieu avait touché tous ces animaux au point que l'un n'attaquait pas l'autre. Il avait des beaux doudous le soir pour dormir, Noé. Mais la parole de Dieu nous dit que la porte resta ouverte un temps, même un temps certain. Mais il fut un moment où Dieu lui-même ferma la porte de l'arche. Ce n'est pas Noé. Il ne pouvait pas ouvrir. La porte était restée ouverte un temps bien défini, mais quand Dieu a fermé la porte, c'était terminé. Quel est le temps qui nous est donné ici-bas ? Il n'y a que Dieu qui le sait. Hier, on avait des amis et des frères et sœurs en Christ qui arrivaient. Et j'essayais de les aiguiller et j'étais sur la terrasse. Et d'un coup, je lui dis, ben, tu verras, il y a un bâtiment avec une croix et un brigand à côté. Mais oui, parce que j'ai été moi-même un brigand. Et Dieu m'a fait grâce. Si Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire pour vous tous. Amen. La grâce, elle est là. Et l'amour de Dieu, elle est là. Mais il y a un moment où il faut saisir la main de Dieu. Le texte que nous avons lu nous amène quand même à quelque chose de particulier où Dieu dit « je cherche ». La recherche de Dieu s'effectue parmi les hommes. Vous êtes d'accord ? Son désir le plus profond est de ramener les hommes à lui, de reconstruire la relation enfant-père, de partager l'éternité et la gloire de son royaume avec un peuple saint. Mais je voudrais dire que cette recherche reste parfois unilatérale. Dieu nous cherche, mais est-ce que nous, on entend ? Est-ce que nous, on cherche Dieu ? J'aime ce verset de la parole de Dieu qui dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent vraiment. Parfois, c'est incroyable la manière de Dieu de nous chercher. On ne pourrait jamais imaginer que Dieu puisse sauver une âme de cette manière-là, à un moment particulier de sa vie. Mais attention, le temps presse. Ésaïe 55, versets 5 et 7 dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Et je reviens sur cette parole, le méchant. Je vous rappelle que le méchant n'est pas celui qui fait que des mauvaises actions, mais le méchant dans la parole de Dieu est celui qui connaît la volonté et la pensée de Dieu, mais qui fait semblant de rien et qui la refuse. C'est terrible. Dieu le voit comme un méchant, quelqu'un qui sait ce qui est bien, mais il se désintéresse. Alors il dit, je cherche parmi eux un homme. Qui est la cible de la recherche de Dieu ? Qui Dieu cherche ? Amen. Alors vous avez vu, il n'y a pas écrit un super-homme. Parce que alors là, la recherche serait terminée tout de suite. Et encore moins un homme parfait. Alors je rajoute, ou une femme parfaite. Comme ça, on est dans l'équité. Ça n'existe pas l'homme parfait. Il n'y a que les femmes qui répondent. C'est étonnant, hein ? Mais ça n'existe pas non plus la femme parfaite. Nous sommes en devenir. On y arrivera un jour. Ce n'est pas encore pour aujourd'hui. Il y a de l'espérance, mais cette perfection, elle est liée à notre salut, puisque c'est au retour de Christ, quand on sera ravis dans le ciel, qu'en un instant nous serons rendus parfaits. Mais il faut être encore avec Christ. Autrement, c'est une perfection imparfaite, puisque celui qui n'est pas en Christ, ben, il termine son éternité dans l'enfer, dans la souffrance, dans la peine. Je cherche un homme. Mais quel homme Dieu cherche ? Un homme né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, qui s'applique de tout son être à vivre selon la parole de Dieu. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, le verset 27, on connaît ce texte qui est aussi dans l'Ancien Testament, dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Alors, on va commencer par aimer le Seigneur, notre Dieu, de toute notre waouh, il y a du travail, non? Quand il dit toute, c'est la totalité. Ça veut dire qu'il n'y a pas une pensée qui peut être en contradiction et dire Dieu je t'aime, Dieu je t'aime pas, Dieu je t'adore, Dieu je t'adore pas. Ça veut dire que tout ce que je dis qui devrait être aussi suivi de tout ce que je fais. Parce que si je dis une chose et j'en fais une autre, je suis déjà en contradiction avec moi-même, n'est-ce pas ? Ça veut dire qu'en tout et pour tout, Dieu est le centre de ma vie et il ne s'arrête pas là, parce qu'on pourrait se dire déjà là, le programme, il est bien chargé. Mais il continue, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Seigneur, je peux t'aimer toi, mais le prochain, waouh ! C'est facile d'aimer quelqu'un, excusez-moi, qu'on ne voit pas, mais qui nous remplit de cadeaux. Non ? Vous êtes d'accord avec moi ? Mais le prochain, c'est qui ? Pas forcément celui qui est assis à côté de nous. Hein. C'est celui peut-être qu'on essaie d'éviter. J'étais dans une église où j'ai regretté qu'il y avait plusieurs portes. Parce qu'au moment de quitter l'église, il y en avait qui sortaient de tous les côtés. Vous savez, comme... Bon, l'exemple n'est pas forcément le plus juste, mais comme les souris quand ils abandonnent le navire. Chacun saute de son côté. Et une fois, j'ai demandé qu'on bloque les portes. J'ai dit, j'aimerais voir sortir tout le monde du même côté. Oh ! Alors, il y en avait qui, en général, ils partaient vite. Ah, ils sont restés longtemps ce jour-là. Hein. Pourquoi ? Parce que aimer son prochain, ce n'était pas encore une notion qui avait été acquise. Mais comment je peux dire d'aimer Dieu ? Si je n'aime pas déjà mon prochain, et mon prochain, c'est celui qui est à côté de moi, celui, voire même, qui partage les mêmes chants, les mêmes temps de prière, qui partage les mêmes sujets, les mêmes difficultés, parce que vous savez, on peut faire le tour, on a tous les mêmes problèmes, on a tous les mêmes difficultés, on a tous les mêmes combats, on a tous les mêmes maux de tête, non ? Et si on apprenait à partager davantage, je pense que l'amour, ça serait pour nous un moyen de nous soigner. N'est-ce pas ? Cette nuit, mon fils est venu me réveiller. « Papa, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. » Je me suis levé, je me suis mis avec lui, on a prié. Et je lui ai dit « Maintenant, tu vas te recoucher. »« Oui, mais ça fait trop mal à la tête. » J'ai dit « Tu vas te coucher, tu vas rester tranquille. Tu te poses, tu vas voir, tu vas t'endormir, ça va partir. » 10 minutes après, il coupait du bois, donc c'était bon. Et moi, je me dis, Seigneur, que faire quand ça ne va pas ? Si on ne peut pas venir vers toi, si je ne peux pas partager mon fardeau avec un frère, avec une sœur, qui pourra me donner un mot de consolation ? Qui pourra m'encourager à retrouver la paix dans mon cœur et dire, Seigneur, c'est vrai, je mets ma confiance en toi et toi, tu sauras comment, Seigneur, me redonner du sommeil ? Je cherche un homme. Vous savez, sans cette implication, cet engagement avec Dieu, c'est impossible de poursuivre le programme. Il dit, je cherche un homme qui élève un mur. C'est le symbole de protection, mais avant tout aussi de séparation. Séparation avec le monde, avec la mentalité du monde, mais en même temps protection. On est protégé quand on est entre les murs de notre maison. On est content, on se sent, même si le vent souffle dehors, on est bien. Il pleut, on est bien. On entend qu'il y a du grabuge dans le quartier, on est bien. Parce qu'en réalité, on est entre nos murs. Mais n'oublions pas que ce peuple s'était rendu odieux aux yeux de Dieu à cause de leur idolâtrie, immoralité et violence. Et Dieu, parmi tout ça, cherche quelqu'un qui a véritablement à cœur de le servir. Si vous revoyez tranquillement le texte, il fait le cas de ceux qui étaient dans le service du temple. Il parle des prophètes et il parle des dirigeants du pays et tous s'y s'étaient détournés de Dieu. Ça approche parfois à la réalité qui est la nôtre aujourd'hui. N'est-ce pas ? On se retrouve avec des soi-disant prophéties qui n'ont rien à voir. On se retrouve avec des directives parfois données mais qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et les gouvernements aujourd'hui, partout, se détournent de Dieu. Je dirais qu'ils font tout pour que Dieu disparaisse même de la loi, même du simple langage. On ne veut pas de Dieu, mais on veut quand même la bénédiction de Dieu. Vous savez, dans ce texte, il n'est pas question de légalisme, qu'on se comprenne bien. Quand on parle de sanctification, on parle aussi de ce qui est nécessaire, dit la parole de Dieu, pour qu'on puisse voir le Seigneur. Or, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 14. Et après, il continue, qui se tienne à la brèche. En effet, qui vit et exerce la justice sans parti prise. C'est pas évident de statuer quand on peut avoir tendance à vouloir faire plus plaisir à l'un qu'à l'autre, non ? Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts et qui veulent faire la différence. Sommes-nous prêts et avons-nous la volonté de faire la différence dans ce monde ? Non pas par nos propres capacités, car c'est en Christ que nous sommes appelés à être une nouvelle créature. Si on devait gérer selon nos principes d'avant, sans Christ, ben on ferait forcément des erreurs. Mais en Christ, nous avons le devoir, je dirais à quelque part, de se tenir devant la parole de Dieu. Combien de fois je me suis retrouvé dans des entretiens et j'ai dû dire à la personne du plus profond du cœur et humainement, je comprends ce que vous me dites. Et je peux comprendre humainement votre choix. Or, la parole de Dieu dit ceci et je me dois de m'y conformer. Humainement, on peut comprendre. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ? Et si Dieu le dit, est-ce qu'il le dit pour notre bien ou est-ce qu'il le dit pour notre mal ? Moi, je crois que Dieu le dit pour notre bien parce qu'il voit encore plus loin que ce que nous, nous pouvons voir. Devant moi, dit le texte. Puisqu'il est question de s'investir pleinement dans l'œuvre de Dieu, une œuvre de salut, en effet, qui œuvre dans la vérité et plaide pour le salut des hommes. Se tenir devant Dieu, prier et chercher le salut des hommes. Amen. C'est beau quand on prie pour quelqu'un et après un certain temps, qui parfois peut être court ou long, Dieu touche le cœur de cette personne. Je me rappelle d'une occasion, j'étais invité à prêcher près de Metz, dans une église. Et là, déjà, j'étais tendu comme une corde de guitare. Et je me disais, Seigneur, voilà, je priais pendant la route et tout. Et j'arrive sur place et une mamie, elle vient me voir. Elle me dit, pasteur, je suis content, c'est vous qui allez prêcher ce soir. Oui, sœur, très bien, j'ai prié pour vous. Alléluia, c'est bien. Il dit, j'ai mon mari qui est là, ça fait 14 ans que je prie pour lui, pour qu'il soit sauvé. Il est là, ce soir, il doit se convertir. Hein. Je lui dis, ouais, Seigneur. Seigneur, il faut que toi, tu fasses quelque chose. Il faut que toi, tu fasses quelque chose. Moi, je ne peux pas faire. J'ai prêché la parole de Dieu telle que je l'avais sur mon cœur. Et quelle a été ma joie de voir cet homme qui se levait pour donner son cœur au Seigneur. Et cette mamie qui accompagnait son mari en larmes, en disant, après tant d'années, Dieu m'a fait grâce de voir mon mari à Christ. Il faut prier 14 ans, hein. Il y en a d'autres qui prient de bien plus longtemps. Mais je voudrais vous dire, prenez courage. Prenez courage, ne perdez pas courage. Non, ne perdez pas courage. Dieu est fidèle, ce qu'il dit. Ah oui. Pas au timing qui est le nôtre. Nous, on voudrait style fast-food. Seigneur, je t'ai demandé, c'est maintenant. Hein ? Seigneur, hier, c'était bien hier. Mais non, Dieu nous dit, confie-toi au moins qui se tient à la brèche. Ézéchiel chapitre 13, versets 5 et 6 dit « Vous n'êtes pas monté devant la brèche, vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent « L'Éternel a dit et l'Éternel ne les a point envoyés » et ils font espérer que leurs paroles s'accomplissent. » Des fausses prophéties, des fausses déclarations. J'ai mis ceci dans mes notes. Attention, tous ceux que se disent prophètes ne le sont pas pour autant. Vous êtes d'accord ? Aujourd'hui, nous voyons fleurir ce genre de propos et Internet est un moyen très, très utilisé, mais il n'y a pas que Internet. Et on voit des messages et des paroles positivistes. Tout va bien. Vous connaissez cette petite histoire, tout va bien, Madame la Marquise. Tout part en miettes, mais tout va bien. C'est pas grave. Le château a pris feu, mais tout va bien. Et nous, parfois, on fonctionne comme ça. Tout va bien, alors qu'en réalité, tout va mal. J'ai parfois entendu des paroles de gloire et de victoire. Alors moi, je crois que Dieu nous appelle à vivre des victoires et à partager sa gloire. Mais attention aux paroles de réussite et de promesses de ministères puissants Car à quel moment avez-vous entendu Dieu promettre à un homme un ministère glorieux, puissant et sans problème ? Il dira à Pierre, après lui avoir quand même donné une leçon et pas des moindres, et Jean, que t'importe, suis-moi. Ok. L'apôtre Paul, quel a été son appel ? Ah, tu auras un ministère glorieux, merveilleux, tout sera nickel pour toi. Il dit non, tu vas souffrir. Tu vas même mourir pour mon nom. Dès le départ, il a été clair. Il a été clair. C'est vrai ou pas ? Waouh ! Seigneur. Alors quand tu appelles, ce n'est pas forcément par des promesses de gloire. En tous les cas, pas ici-bas. Mais Paul dira, j'ai couru la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne m'est acquise, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui feront aussi cette course. Alors attention, excusez-moi, aux promesses qui ne sont pas suivies d'effets, parce que Dieu ne peut pas suivre d'effets ce genre de promesses. Mais quand Dieu nous appelle, et je crois qu'encore ce matin Dieu appelle, il nous appelle en faveur du pays afin qu'il ne le détruise pas. Je cherche un homme qui se tient devant moi sur la brèche et qui prie en faveur du pays. Celui qui s'engage avec Dieu s'engage pour Dieu et en faveur des autres, pas pour lui-même. Et quand en réalité on prend soin des autres, vous savez ce qui est merveilleux ? C'est que Dieu prend soin de nous. J'aime dire que quand on s'occupe des affaires de Dieu, Dieu s'occupe de nos affaires. J'ai pu l'expérimenter en bien des situations. Quand on s'occupe des affaires de Dieu, Dieu s'occupe de nos affaires. Mais, il y a un mais. Mais, je n'en trouve point. Souvent, quand il y a un mais, ce n'est pas bon signe. N'est-ce pas ? Alors je voudrais vous dire, mais il y a deux possibilités. La première, c'est de faire semblant de rien et limite ton prix en renvoyant le problème à Dieu. Vous avez déjà lu Matthieu chapitre 9, verset 38. Qu'est-ce qu'il dit ? Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Seigneur, j'ai entendu ton appel, je vais prier pour cela. Envoie des ouvriers, Seigneur. Ouais, Seigneur, tu vois combien de frères et sœurs il y a autour de moi. Envoie-les. C'est bien. Moi, je reste ici, je fais le ménage, Seigneur. Je m'occupe de fermer les portes, Seigneur. Si on interprète ce texte comme ça, c'est qu'on n'a pas compris. Il y a une autre manière, la deuxième possibilité. C'est où on a compris le texte de Matthieu et alors on répond comme Ésaïe. Chapitre 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Je voudrais vous dire, ce matin, Dieu cherche des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche, qui montent des murs, non pas de séparation parce qu'on n'aime pas les autres, mais qui s'applique à la parole de Dieu, à la vérité de Dieu, dans sa totalité, et qui prie pour le salut des âmes. C'est le sens de notre jeûne et prière. Vous savez, excusez-moi, moi je ne vais pas prier, je vais pas faire un jeûne et prière pour demander à Dieu de me payer ma facture d'électricité. Hein. Non ? Pourquoi je peux jeûner ? Pourquoi je devrais jeûner, moi ? Pour le salut de mes enfants ? Pour le salut de mes voisins, pour que le Seigneur me donne d'être encore plus sensible à sa voix, pour que le Seigneur m'aide à me sanctifier davantage. Quel est le sujet de votre jeûne et prière ? Est-ce qu'on est prêt à se dire, Seigneur, je me tiens à la brèche ? Parfois, on va prier pendant des années et on ne comprend pas pourquoi ça ne vient pas, mais le fait de continuer, ça prouve qu'on sait qui on prie. Amen ? Qui est Dieu pour vous ? Qui est Dieu pour vous ? Vous savez quelle est la différence entre connaître Dieu et avoir entendu parler de Dieu ? quand on connaît Dieu, on sait que toutes nos prières arrivent devant son trône et que Dieu ne les laisse pas tomber. Même si peut-être ça prend du temps pour que cette prière, elle trouve son accomplissement, mais quand on a entendu parler de Dieu, on prend ça peut-être de manière culturelle, on prend ça peut-être de manière religieuse, mais on n'a pas saisi véritablement qui est Dieu. Je disais hier, en train de discuter à table, pourquoi Dieu a demandé à Abraham, son fils. Pourquoi Dieu a demandé à Abraham, son fils ? Qu'est-ce que Dieu voulait tester dans la vie d'Abraham ? Vous êtes tous d'accord ? Très bien. Mais est-ce que Dieu sait tout ? Donc, est-ce que Dieu ne connaissait pas déjà la foi d'Abraham ? Oh, pourquoi ? Bah, Dieu sait tout. Dieu savait déjà qu'Abraham, s'il lui avait demandé, il lui aurait donné son fils. Alors, pourquoi ? C'est pour Abraham. Si parfois Dieu permet que certaines épreuves touchent notre vie, ce n'est pas parce que lui ne connaît pas déjà la manière de nous sortir. Il a déjà prévu d'avance tout ce qu'il faut. Mais Dieu veut que nous on réalise qui il est. Est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, je veux que tu sois mon Dieu. Et Seigneur, je voudrais répondre à cet appel aujourd'hui en te disant, me voici, me voici. On va fermer nos yeux, on va incliner nos têtes. Père éternel, alors qu'il était question de sauver l'humanité, tu as demandé à ton fils de se sacrifier. Tu lui as demandé d'abandonner sa gloire céleste pour venir parmi les hommes comme un homme et souffrir. Et il a répondu, « Me voici. » Seigneur, quand il a été question d'aller à la croix, encore une fois, il a dit, « Père, non pas ma volonté, mais la tienne. » Et à la croix, Seigneur, il a dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire qu'on ne sait plus. On ne peut pas rester sourd, Seigneur, à ton message. On ne peut pas faire semblant de ne pas avoir entendu que le ciel, le paradis existe, mais l'enfer aussi. Nous ne pouvons pas faire semblant, Seigneur, qu'à cause de notre comportement et de notre bonne éducation, on sera sauvé quand même. Non. Nous savons que c'est que par la foi en Jésus-Christ et par l'obéissance, Seigneur, à ta volonté, Seigneur, que nous devenons héritiers et co-héritiers de la grâce. Seigneur, si avant on ne savait pas, on pouvait à quelque part trouver une justification quelque part. Mais tu as mis tout en œuvre pour qu'on sache. Et ce matin, Seigneur, encore ta voix retentit pour dire, je cherche un homme. Je cherche un cœur. Je cherche un couple, je cherche une famille. Je cherche un jeune, je cherche un enfant. Tu n'as pas défini un âge précis, mais tu as adressé ton message à l'humanité tout entière. Et encore ce matin, Seigneur, si quelqu'un répond, me voici. Seigneur, ton cœur se remplit de joie parce que ton message a été entendu, parce que ta parole, Seigneur, a retenti dans les cœurs. Seigneur, je te prie de continuer à faire retentir ta voix dans les cœurs jusqu'à ce que chacun dise « Me voici ». Seigneur, que ta patience, Seigneur, qui est grande, puisse continuer à être encore, Seigneur, une occasion pour que des âmes soient sauvées. Mais je ne veux pas oublier que le temps de la grâce a aussi un terme. Et Seigneur, on se doit de ne pas renvoyer à demain, mais dès aujourd'hui, te donner notre vie et accepter, Seigneur, aussi d'être sur ce rempart, Seigneur, pour, Seigneur, chercher le salut de notre nation. Seigneur, combien sera horrible le jour, Seigneur, où quelqu'un devait nous croiser et nous dire « Tu savais, tu m'as rien dit. » Seigneur, garde-nous de cela, s'il te plaît. Seigneur, donne-nous le courage de nous tenir, Seigneur, devant toi. Être devant ton trône, Seigneur, et te prier. Seigneur, encore ce matin, glorifie-toi dans notre vie, dans notre cœur, et qu'à toi en revienne toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.